peregrino y váyate con Dios. Bon chemin pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous vous retrouvons aujourd'hui pour la suite de ces chroniques hebdomadaires dédiées au cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h30 sur CFM Radio, la radio que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors, Ansel, pour commencer, si nous prenions le cheval au mot, alors aujourd'hui le mot alezan. En français, cet adjectif apparaît sous la plume de François Rabelais vers 1534. C'est la première fois qu'on voit apparaître cet adjectif alezan. Alors, alezan vient de l'espagnol, lui-même venant de l'arabe azzar, qui décrit la couleur blond-roux ardent qui est celle du pelage du renard. Notre langue l'a gardé à la fois comme adjectif, j'ai vu un superbe anglo-arabe alezan, adjectif, mais aussi comme nom commun, comme substantif, par exemple, mon alezan est une jument sympa qui a beaucoup de cœur. Alors aujourd'hui, le messager du cheval a le plaisir d'accueillir quelqu'un de rare, un homme singulier et passionné, un Français mexicain ancré dans ses terres lotoises. C'est un chanteur, mais également un cavalier qui a réussi à créer des liens culturels solides entre le Mexique et la France et qui mène de front depuis pas mal d'années déjà des partenariats musicaux, mais également d'équitation de travail avec ses amis mexicains. Bienvenue à Pancho, le Charo français.
Merci Michel. Bonjour à tous.
Alors, je vais commencer par une colle. Pancho, pardonne-moi. Comment dit-on alezan dans l'espagnol du Mexique?
Alhassan. Ça se rapproche d'ailleurs plus de l'arabe, puisque Alhassan.
Mais ça vient de l'arabe.
Ça vient de l'arabe. Et il y a un féminin, il y a une très très belle chanson qui s'appelle Las Alhassanas, qui est une des danses mexicaines les plus cotées et qui est dansée que par les filles.
Et qui n'est dansée que par les filles. Et il y a une chanson du Gonfré qui s'appelle L'homme et l'alezan. Oui. Que nous avons déjà entendu.
Voilà, donc il y a vraiment de quoi se régaler avec simplement en prenant le mot alezan, mais en y mettant quand même une jolie pincée de Pancho et une autre jolie pincée de Jean-Yves Bonnet, on peut se régaler quand même pendant pas mal de soirées.
Ah, ça fait partie des robes simples.
Ouais, mon cheval est un alezan brûlé.
Alezan brûlé.
À la Saint-Quemado.
Cremado.
Cremado.
Quemado. Quemado, d'accord, voilà. Alors, Pancho, déjà, tu es charo, mais qu'est-ce qu'un charo?
Eh bien, il y a pas mal de Mexicains qui ignorent l'origine de ce mot. En fait, elle remonte à la conquête, et quand Cortés est arrivé au Mexique, il avait 52 chevaux avec lui, chevaux et juments, et tous les palefreniers venaient de la ville de Salamanca. Or, la ville de Salamanca, en Espagne, eh bien, les habitants s'appellent les charros. Comme par exemple Rodez, c'est pas évident, on dirait les Rodésiens, etc.
Ben non, les Ruthénois.
Les Ruthénois, c'est un autre mot, carrément. Eh bien, les habitants de Salamanca s'appellent donc les charros. Et quand on est né, on est charro là-bas, à Salamanca.
On est charro.
Mais, on disait donc, du temps de Cortés, vete a buscar el charro. Va chercher celui de Salamanca. Et c'est devenu un mot comme étant homme de cheval. Mais de palefrenier, ce mot a pris de l'importance avec une connotation chevaleresque. Et maintenant, on a des jinetes, qui sont des cavaliers, mais au Mexique, charro, c'est plutôt un chevalier.
C'est plutôt un chevalier. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à devenir charro? Et comment, par exemple, toi qui es français venant du Lot, tu as pu rencontrer des charros mexicains et, au fond, devenir toi-même charro? Il y a peut-être un certain nombre, c'est pas, je dirais pas une confrérie, mais enfin quelque chose un petit peu comme
sélectif.
Un compagnonnage. On rentre d'ailleurs avec un parrainage de deux charros qui présentent la candidature et qui sont responsables un petit peu de l'impétrant au niveau de la charrería. On dit charrería, c'est l'ensemble, et charreada, c'est l'épreuve. C'est-à-dire ce qui serait pour nous le rodeo, c'est la charreada, c'est l'épreuve. Et par contre, la charrería, c'est l'ensemble des activités qui tournent autour de cela. Alors, comment je suis devenu? Moi, je suis tombé dans l'amour de la chanson mexicaine à 14 ans, donc il y a prescription maintenant. Et j'ai eu la chance de chanter un petit peu partout en Europe avant de partir au Mexique. Et la première fois, le premier voyage au Mexique en 1974, j'ai été présenté tout de suite dans la plus grande émission de télé mexicaine avec Raúl Velasco. Et le plus grand chanteur qui m'avait fait rêver quand j'avais 14 ans, c'est pour ça que j'ai décidé que je serais chanteur, c'était Miguel Aceves Mejía, et c'est lui qui m'a parrainé jusqu'à sa mort en 2006. J'ai composé une chanson mexicaine, paroles et musique pour lui, et que je vais chanter régulièrement sur sa tombe maintenant. Voilà. Mais quand on est charro, quand on est chanteur mexicain, on chante des chansons mexicaines traditionnelles. Or, ces chansons, elles ramènent toujours au cheval comme étant un peu la chanson de geste au temps des troubadours et du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ni télé, ni radio CFM à l'époque. Et pour l'information des gens, eh bien, il fallait que ça, qu'il y ait un autre véhicule. Et ce véhicule, c'était le corrido. C'est-à-dire la chanson qui est devenue la chanson de geste pour nous, mais le corrido mexicain. Et à partir de là, j'ai l'envie d'avoir un cheval aussi, à force de parler des chevaux. Et puis j'ai eu la chance à cette époque-là de rencontrer Jean-Yves Bonnet, c'est-à-dire pour moi j'ai rencontré deux hommes aussi importants, Miguel Aceves Mejía pour la chanson, Jean-Yves Bonnet pour ce qui est du cheval. Et pour moi ça a été une grande émotion de penser que j'avais ce grand personnage du cadre noir et de Saumur, etc., qui allait me dire « Attends, Pancho, tu fais des bêtises, ça se fait pas comme ça, etc. » Et puis, petit à petit, je me suis un peu perfectionné et je suis maintenant certainement le plus mauvais charro de France pour mon cheval et le meilleur charro de France pour les Mexicains, puisque je suis le seul en France.
D'accord, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. En fait, quand tu vas d'est en ouest, tu deviens le plus mauvais charro. Voilà. Mais quand tu te redéplaces d'ouest en est, tu deviens le meilleur charro. Voilà. Donc il suffit pour finalement devenir un bon charro de savoir l'Atlantique, si on le traverse d'est en ouest ou d'ouest en est.
Ouais. Je crois que ce qu'il y a surtout, c'est d'être sincère. C'est que je ne me vante pas de connaître, de pratiquer les différentes suertes de la charrería, mais celles que je pratique, je les ai pratiquées avec authenticité et souvent à mes dépens. C'est-à-dire que quand on attrape un petit taureau par la queue pour le faire tomber, il y a des fois où c'est pas le taureau qui tombe.
Alors justement, Pancho, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur le travail justement du charro en arène, puisque ça se passe en arène, dans une arène.
Bon, en arène, on l'appelle le lienzo. Lienzo, en fait, étymologiquement, c'est un couloir de 60 mètres sur 10 mètres de large qui sert de couloir d'élancement entre les corrales et puis le ruedo, qui est comme une arène circulaire. Et cette arène qui fait 40 mètres de diamètre. Et dans ce couloir, il y a des épreuves différentes. Au départ, la première s'appelle la cala, et elle consiste à faire courir depuis les 60 mètres au triple galop un cheval, et de l'arrêter brutalement, c'est un nom en France, quoi, arrêt, drib,
oui.
Sur les postérieurs, en le faisant rayar, c'est-à-dire que les deux postérieurs font des raies, et on calcule la longueur de l'arrêt qui a été faite pour donner une qualification à la cala. Ces chevaux sont des chevaux qui sont dressés spécialement pour ça, qui ont des postérieurs d'une puissance extraordinaire et qui ne servent pas pour d'autres épreuves. Ensuite, dans la cala, on le fait tourner sur lui-même, tourner sur comme un pivot, la patte intérieure, gauche ou droite, suivant les tours qu'on fait, mais au moins une dizaine de tours sur lui-même, sans que le pied quitte le sol. Alors ensuite, eh bien, on donne des notes, bien sûr, sur chaque équipe. Et puis après, a lieu la deuxième épreuve, qui, elle, c'est les piales, qui consiste à attraper des petites juments qui courent le long du lienzo, au lasso, à 10, 30 et 50 mètres, en attrapant les deux pattes postérieures. Et on freine en enroulant le lasso autour du pommeau de la selle. Et voilà la liaison.
Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission après une pause musicale. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Et ben, nous avons Pancho en direct.
Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí. Con el corazón te digo, olvidemos el pasado. Y lo que diga la gente,
lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. ¡Papá! Arriba Jalisco. Así dicen en mi tierra, pero en Francia dicen en francés. Pardon l'a rendu plus beau, les épreuves de chaque jour lui donnent un essor nouveau. Oublions donc le passé, regardons vers l'avenir. Ce qui compte, c'est que tu m'aimes et que je t'aime, moi aussi. Pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre.
Ay, muy romántico. Merci beaucoup. Alors Pancho, nous allons continuer à t'écouter, à nous initier au fond au charro, bien évidemment. Alors, est-ce que le cheval charro, déjà, c'est un cheval particulier, ou est-ce que c'est un barbe comme on peut en trouver, un criollo, un
mustang? Ça, c'est sûr
mustang,
que c'est un descendant du barbe. Oui,
c'est un descendant du barbe, puisque c'est les chevaux de Cortés, ce qui ont donné par la suite des porte-horses. Hein. Mais... on l'appelle d'ailleurs Cuarto de Milla, qui veut dire quart de mille, hein, c'est la traduction espagnole de quarter horse.
Et c'est cela, tout à fait, voilà. Un quart de mille. Ouais,
un quart de mille. Oui. Mais c'est maintenant, il y a un nouveau cheval qui s'appelle Raza Azteca, ah, A-Z-T-E-C-A. Et le Raza Azteca, c'est Domecq qui a amené ça il y a une quinzaine d'années au Mexique. Voilà, celui du oui. Cognac. Et c'est un croisement de Cuarto de Milla.
Ah, rassure-moi, c'est pas un croisement de cognac et de tequila.
Ah non.
Ah bon.
Ah, non. Non, ça se prend l'un après l'autre.
D'accord.
Tandis que dans
le cheval, ça se prend
ensemble.
Ensemble.
Là, alors, c'est en principe une jument. Au départ, c'était des juments lusitaniennes et avec des reproducteurs. Cuarto de Milla. Alors, ça donnait des chevaux un peu plus hauts que le Cuarto de Milla, avec l'allure d'un lusitanien, mais plus rablé au niveau de la
coupe,
peut-être, et de la hanche, ouais. Et qui est parfait.
Pouvant donner des départs rapides et des arrêts brusques aussi.
Oui. Alors, pour quelle raison on ne va pas plus haut comme race? Tout simplement pour une question de lasso.
D'accord.
Parce que le quarter horse comme le Cuarto de Milla, c'est parfait parce que quand on enroule le lasso au pommeau de la selle, on peut pas se permettre d'avoir un angle trop fort par rapport à la bête qu'on vient de prendre.
Bien sûr. Alors justement, nous arrivons à cela, c'est-à-dire que bon, ce Cuarto de Milla, effectivement, il faut lui mettre une selle sur le dos et le harnacher. Alors est-ce que tu pourrais nous décrire, Pancho, en quelques mots, déjà la selle? Qui est assez particulière, la selle mexicaine. Alors, est assez particulière.
Si tu veux, on va commencer par l'enrènement, parce que c'est
l'enrènement,
Mexique, on
bien
met
sûr.
Toujours la reine en premier.
D'accord.
C'est une reine unique, avec un mort à pont, assez puissant, avec un passage de langue, et en principe avec des petites roulettes de cuivre pour faire saliver le cheval.
Ils aiment beaucoup jouer avec ça. Pour faire jouer.
Ils jouent beaucoup avec ça.
Alors ce que l'on voit aussi, c'est que c'est un matériel, aussi bien du reste, le harnachement que la selle, extrêmement ouvragé, brodé, cuir repoussé, c'est extrêmement beau, des plaques d'argent, enfin c'est même assez somptueux.
Les morts sont en principe d'Amosoc, qui était un village qui est spécialisé là-dedans, c'est des incrustations d'argent, et maintenant on a essayé de simplifier un peu, mais de toute façon, même le cheval de tout un chacun, quelqu'un du paysan du coin, etc., à un mort en argent d'Amosok. C'est une question de respect du cheval. C'est-à-dire que, en France, on a des gens riches et des gens pauvres, mais même les gens pauvres, ils font attention à avoir une belle voiture.
Ça fait partie de l'habit de Pierre.
Ça fait partie. Mais peut-être plus intrinsèque à la famille, en sens que le cheval, il fait partie de la famille. Dans des ranchos comme dans des chosas, c'est-à-dire des petites huttes, eh bien, le cheval, il est accroché juste à côté de la maison ou de la cuisine. Et il fait partie de la vie intégrante de la famille.
Il fait partie de la vie intégrante de
même
la famille.
Même dans les ranchos, même dans les grandes haciendas.
Voilà. Alors, si on continue, donc, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la selle?
Alors, voilà. La selle, très particulière. La selle, l'arçon est en bois, c'est le fousté. Il est en bois recouvert de parchemin, en fait, de peau de porc.
Et le retobo, je crois.
C'est le retobo, voilà. Qui lui donne un aspect brillant, luisant. Le pommeau est très, maintenant, est très aplati, mais il était en forme semi-sphérique pendant pas mal de temps au moment de la Révolution. Et puis, la selle elle-même, l'arçon est moins remonté que les selles andalouses, par exemple.
Oui. Bien qu'elle vienne, la selle mexicaine, de la selle andalouse.
Tout à fait. Mais il y a une particularité, c'est que par rapport aux selles américaines, c'est que dans la selle américaine, la position des étrivières est de telle façon qu'on est plus assis dans la selle. Sur la selle mexicaine, on est plus en avant. Et on est plus vertical.
C'est vrai qu'on voit souvent, par exemple, dans les rodéos, au petit trot, on voit les cavaliers ou les cavalières américaines, mais un petit peu voussés sur le dos, voilà, un petit peu abandonnés en quelque sorte.
Tout à fait. Alors, je pense qu'au départ, c'est fait aussi pour pouvoir aider le trot du cheval lui-même. Maintenant, pour ce qui est du cheval mexicain, il a bien l'habitude qu'on soit bien dressé dessus, et c'est rare de s'avachir et de se coucher.
Mais les Mexicains, comme tous les gens qui font du travail à cheval, font peu de trot finalement.
Non, pas au galop.
Et de la galopette.
Ouais.
Le petit galop.
Ah, le petit galop.
Alors, tu me racontais quelque chose aussi de très intéressant, Pancho, les éperons. Donc, comment réagit un cheval quand on arrive sans éperons? D'abord, est-ce qu'il le voit?
Alors, moi, je dois dire que j'avais dressé
une anecdote.
Pied blanc qu'a connu Jean-Yves. Pied blanc qui était un cheval qui a fait 22 ans de bons et loyaux services avec moi. Un cheval de grande qualité, et quand je l'ai débourré comme je pensais le faire, et quand je l'ai présenté à mes amis mexicains, ils m'ont dit c'est très bien à l'envers, mais c'est bien. Alors ils me l'ont repris en main, et ils me l'ont pris en main d'une façon assez brutale pour en 20 minutes lui désapprendre ce que je lui avais appris et lui rapprendre la bonne chose. En gros, si c'était nous en France on dit des aides. Au Mexique, on dit des castigos. C'est-à-dire que nous, on incite un cheval à tourner à droite. Au Mexique, on l'empêche de tourner à gauche. Ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, ça veut dire que le cheval, au départ, sait que les éperons sont là, avec des coups qui peuvent être violents. Mais ça dure pas longtemps, 10 minutes. Ensuite, il l'a compris pour toute sa vie. Et au niveau du mort également, le mort est tellement puissant qu'il comprend très bien ensuite qu'il y a une petite boule sur à mi-parcours de la reine qui fait que quand elle appuie sur le coup en reine d'appui, eh bien, c'est très efficace, beaucoup plus que la reine d'ouverture.
La boule, en fait, c'est la première sommation.
Exactement.
Et donc, quand il a eu la deuxième sommation, il en reste à la première,
voilà.
Généralement.
Et pour ce qui est des éperons, alors ces éperons ont des grandes molettes, mais on s'en sert pas, ils font beaucoup de bruit, et il y a le mâle et la femelle, ils font deux bruits différents, clic, cloc, et on dit que celui qui veut aller voir sa maîtresse, soit il remonte ses éperons, soit il met le pozo de amor, c'est-à-dire il met une petite barre de bois pour empêcher les molettes de tourner pour pas qu'on l'entende.
Décidément, Jean-Yves, c'est pas toi qui nous dira le contraire. Les grands cavaliers ont toutes les ruses dès qu'on aborde certains sujets, Jean-Yves, n'est-ce pas?
Ça veut dire quoi, ça?
Salaud.
Oh, ça veut dire ce que tu as très bien compris, puisque tu as rigolé.
Et les chevaux rient aussi.
Et les chevaux rient aussi. Alors, j'ai vu souvent aussi sur les selles de Charo, à gauche, accrochées au fousté, une machette.
Oui.
Une machette.
Machette, oui.
Voilà. Et ça fait partie d'un accessoire obligatoire.
Il faut parler du rebec.
Bon, alors, obligatoire pour la bonne raison qu'on va dans des coins où il y a énormément de buissons, etc. Et le machette est nécessaire. Peut-être plus que ne l'était le pistolet à une certaine époque.
D'accord. Alors, trois livres, Mexique aux éditions du Seuil, La vie quotidienne des Aztèques à la veille de la conquête espagnole de Jacques Soustelle, historien anthropologue et l'un des meilleurs spécialistes du Mexique ancien, et c'est aux éditions Hachette. Enfin, un petit clin d'œil, Tortillas pour les Dalton, l'album BD numéro 31 du dessinateur Maurice, le fameux créateur de Lucky Luke, et c'est chez Dupuis. Très rapidement, Jean-Yves, on attend tous, on est tous impatients d'avoir ta leçon, vraiment en quelques mots, si c'est possible, cadencer son cheval. Que pourrais-tu dire,
hein? Mais ce sera difficile, dans quelques mots, de parler de ça, parce que c'est tout un doctrine et tout un poème. Bon, cadencer un cheval, c'est se servir alternativement de sa jambe droite, jambe gauche. C'est que le travail de la jambe isolée, qui est la jambe de la randonnée, jambe du défilé, jambe du coup de pied, jambe de l'appuyé, jambe du changement de pied, jambe du piaffé, jambe du chevalier, jambe de l'écuyer. Mais pour ça, il faut avoir acquis l'indépendance des aides, pouvoir se servir de sa jambe droite sans bloquer la jambe gauche. Donc, équilibre d'abord, ensuite indépendant des aides, et puis cadencer au moyen de sa jambe, jambe droite quand le cheval lève le postérieur droit, jambe gauche quand il lève le postérieur gauche, se servir de son bassin et de son balancier aussi, également, dans le mouvement, en accord avec le cheval. Voilà pour la
question. Merci beaucoup Jean-Yves, tu es toujours aussi clair. C'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mercredi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour de nouvelles chroniques sur CFM Radio 107.9 et sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique « Le messager du cheval ». Un grand merci à Pancho qui nous a fait découvrir aujourd'hui la musique et l'équitation des Charros du Mexique. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine et bien sûr...
Adelante y enhorabuena para nuestros caballos.
Ciao, ciao.
Les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Non. Droit et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, non. D'aigle mort à Rhodes, en passant par Salmière, du langue d'Ocorouergue, après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Mione, les Bézous, Salmière, milieu du sel, patrie de Béranger, de Landor, capitale du roer de Rhodes, entrée dans la légende de la route du sel. Entrée dans la légende de la route du sel.